Jésus, dans son enseignement, a utilisé un nombre considérable de paraboles tirées du monde agricole. Vous les connaissez sans doute pour la plupart. Il y a celle du semeur qui sème n'importe où. Au lieu de semer que dans la bonne terre, il sème aussi sur les chemins, sur les cailloux et tout ça. C'est un peu curieux. Il y a celle du bon grain et de l'ivraie, c'est-à-dire le bon grain qui est gardé et l'ivraie qui sera ensuite jeté au feu. Il y a deux paraboles de figuier, une sympathique et l'autre moins. Celle qui est sympathique, c'est celle que nous avons entendue, où le figuier ne produit pas de fruits et le vigneron dit « ben écoute, laisse-le encore un an, laisse-lui sa chance, on va attendre ». Et l'autre moins sympathique, c'est Jésus qui dessèche le figuier, il le tue quoi, parce qu'il ne donne pas de fruits. Il y a la parabole du grain de moutarde, cette toute petite graine qui donne la plus grande des plantes. Et puis, d'une façon plus générale, souvent, il y a cette idée, vous savez, que Jésus dit que les bons arbres donnent des bons fruits et que les mauvais arbres donnent de mauvais fruits. Ou encore le jugement de Dieu qui est comparé au moissonneur qui garde les bons grains et qui brûle la paille, etc. Alors, toutes ces paraboles nous en apprennent beaucoup. En théologie, c'est ce qui m'intéresse, et un petit peu sur la conception que Jésus pouvait avoir de la nature. Alors, comme on parle beaucoup de la nature en ce moment, je peux vous en dire quelques mots, mais ce n'est pas ma spécialité, je passerai très vite. D'abord, ce que je vois, c'est que le fait qu'il utilise des paraboles issues de la nature pour parler de nous, puisque ce sont des paraboles, nous montre que la nature est en fait la meilleure image de nous-mêmes. C'est-à-dire que nous sommes en fait la nature, parce que nous sommes tous faits d'éléments naturels. Donc, première chose, notre survie dépend évidemment de la survie de la nature et notre santé dépend de la santé de la nature. Bon, c'est une évidence, mais c'est bien de le rappeler. Cela dit, Jésus, je crois, ne nous incite pas à aller dans une sorte d'écologisme béat qui diviniserait la nature. Pas du tout, parce qu'on voit dans l'Évangile, que dans la nature, tout n'est pas bon. Il y a du bon et du moins bon. Il y a du bon grain, mais il y a aussi de l'ivraie. Il y a des belles fleurs, mais il y a aussi des épines. Et s'il y a des bons arbres, il y a aussi des mauvais arbres qui produisent des mauvais fruits. Et donc, nous savons que ce n'est pas parce qu'une chose est naturelle qu'elle est bonne. Et en ce moment où c'est la période de la cueillette des champignons, prenez-y garde. Ce n'est pas parce qu'un champignon est naturel que forcément, il vous donnera une santé florissante. Vous pouvez même le payer extrêmement cher. Et donc non, la nature doit être, il faut y prendre garde, mais tout n'est pas bon dans la nature, c'est bien de le rappeler. Ensuite, on voit aussi dans de nombreux passages que cette nature, elle est confiée à l'homme. C'est-à-dire que le maître confie la vigne au vigneron, qu'il invite les hommes à y travailler, etc. Et dans les psaumes, il y a ce verset qui dit « Les cieux sont les cieux de l'Éternel, mais Dieu a donné la terre aux êtres humains. » Alors ça, c'est assez important parce que ça veut dire que la terre, eh bien, elle nous est donnée. Donc c'est à nous. Alors vous diriez « Puisque c'est à moi, j'en fais ce que j'en veux. » Pas tout à fait. Parce qu'il ne l'a pas donné, il n'a pas tout donné à chacun individuellement, il l'a donné en copropriété à l'ensemble. Et comme on n'est pas tout seul dans ce monde, eh bien la première chose, c'est d'avoir une vision collective de la question. Et peut-être que le fondement, un des fondements de l'écologie chrétienne, c'est ce passage de Paul quand il dit que chacun de vous, au lieu de considérer son propre intérêt, considère aussi celui des autres. Et donc, oui, on est un peu propriétaire de la nature, mais on ne peut pas tout prendre pour soi. Il faut partager avec les autres, il faut prendre sa part, mais partager aussi et prendre part à un effort commun, en se disant qu'il n'y a pas de raison que ce soit l'un qui prenne tout et les autres qui n'aient que les déchets, ou que ce soit les uns qui consomment tout et les autres qui n'aient que la pollution, ou je ne sais quoi. Bon, enfin, je passe. Et puis surtout, si la nature est confiée aux hommes, eh bien, il faut en prendre soin, encore plus que si elle nous appartenait vraiment, parce qu'on est aussi responsable des générations futures. Donc, il faut préserver, économiser, ne pas tout dépenser, certes. Ça, vous le connaissez. Et évidemment, nous sommes là dans une maison commune, c'est vrai, comme dit le pape, et c'est une belle image, et donc que nous devons aussi léguer à nos enfants. Mais je vais passer. Je continue rapidement dans ce domaine pour parler d'autres choses. Ce que je vois dans les paraboles, c'est que la nature a aussi besoin d'être protégée par l'homme. En effet, il construit une vigne, mais il met aussi une haie, et s'il n'y a pas de haie autour ou de clôture, la nature risque d'être dévorée par les bêtes sauvages. Et on voit surtout dans les paraboles de Jésus que la nature a besoin d'être cultivée. C'est-à-dire que la vigne, pour fonctionner, il faut se donner du mal, il faut labourer, il faut cultiver, il faut protéger, il faut émonder. Et donc la nature n'est pas à conserver comme un musée, mais il faut faire quelque chose avec. Et même l'idéal de l'évangile, c'est la synergie, c'est-à-dire l'idéal de l'évangile, c'est le vin, qui est le signe de la joie et de la fête. Et pour qu'il y ait du vin, il faut qu'il y ait la nature qui fasse pousser les grappes, aidée par l'homme, et qu'ensuite il y ait une transformation spirituelle de la chose par tout le procédé de vinification. Et donc c'est la synergie entre la nature et l'homme qui peut permettre de produire la meilleure des choses, ou la pire, à vous de voir. Et puis enfin, apparemment la nature en elle-même, elle est ce qu'elle est, mais Dieu en attend des fruits, c'est-à-dire que l'important c'est le résultat. Il espère les bons fruits. Donc il y a une conception un peu utilitariste. Je suis parti dans cette idée que finalement chaque chose est jugée par rapport aux fruits qu'il donne. Mais pas que. À un moment donné, Jésus parle aussi des lys des champs qui sont particulièrement beaux. Et par conséquent, le but n'est pas que l'utile, mais aussi le beau et l'harmonieux. Bon, écoutez, voilà, j'ai fait ce que j'ai pu pour trouver des idées écologiques à partir de l'Évangile. C'est sans doute pas tout à fait idiot, mais pas très original. Maintenant, je vais vous parler de ce qui est plus le cœur de mon métier, donc là où je suis plus crédible, c'est que ces paraboles ne sont pas là pour parler d'écologie, mais pour parler de nous, c'est-à-dire de notre propre vie et de notre relation à Dieu. Et toutes ces paraboles sont là pour parler du royaume de Dieu. Le royaume de Dieu, c'est pas un endroit après la mort où on va se retrouver. Le royaume de Dieu, c'est tout ce qui concerne notre relation à Dieu, c'est-à-dire la foi, tout ce qui concerne la dimension spirituelle de notre vie. Alors si vous êtes chrétien ou croyant, vous comprenez ce que c'est que la relation à Dieu. Et si vous ne l'êtes pas trop, je peux vous le dire d'une autre manière. Ces paraboles parlent de ce qu'il y a de plus essentiel et de plus fondamental dans notre être et qui est le secret pour être heureux dans le monde et pour être bien dans ce monde. Parce qu'on peut vivre à Paris d'une ville très polluée et on peut vivre à la campagne d'une ville très saine en mangeant que des carottes bio, mais on peut aussi déprimer à la campagne ou déprimer à Paris, ça n'a rien à voir. Le bonheur, la qualité de la vie et la qualité, elle est au-delà du physique, bien sûr. Et donc, quel est le cœur même de votre existence, l'enjeu qui fait que votre vie peut être un bon fruit ou peut-être une pourriture? C'est ça la question de toutes ces paraboles. Et là, nous voyons plusieurs choses que je vous ai dites là d'un point de vue matériel, mais qui sont importantes au point de vue spirituel. La première chose, c'est que si Jésus parle de cette qualité intérieure de vie, de cette foi, de ce que, comment appelez-le comme vous voulez, comme en relation avec les plantes, c'est que ce qu'il définit le mieux, c'est quelque chose de l'ordre de la croissance. C'est-à-dire que c'est une dimension qui ne vient pas forcément d'un coup, mais qui grandit petit à petit. Ça, c'est important parce que ça veut dire que la foi, il ne faut pas dire, faut pas attendre qu'elle vous tombe dessus du jour au lendemain. Certes, il y a des gens qui vivent des conversions brutales, mais sans doute qu'elles ont été préparées d'une façon souterraine auparavant. Et que par conséquent, la foi, ce n'est pas un switch on-off. Moi, j'ai la foi, moi, je ne l'ai pas. Peut-être qu'un jour, je l'aurai ou je l'ai eu et je la perds. La foi, c'est une dimension qui grandit dans notre être. Et donc, il y a en nous autre chose qu'une croissance physique, il y a une croissance intérieure de sagesse, de spiritualité, de profondeur, de qualité de l'être, et que ça, c'est quelque chose qui grandit très lentement et qui peut ensuite, un jour, produire de bons fruits. Alors, pour grandir, deuxième proposition, il faut une graine de départ. Ça, c'est de l'écologie de base, hein. Si vous voulez que ça pousse, il faut planter. Alors, quelle est la graine de départ qui nous permet de trouver cette dimension extraordinaire de notre vie? Si j'étais très ritualiste, je dirais, c'est le baptême. Le baptême, on plante, et puis ensuite, ce baptême pousse ou ne pousse pas. Il y a des baptêmes qui ne donnent rien, et il y a des gens dont le baptême a grandi pour donner une vie épanouie. Mais bon, je ne crois pas que les actes liturgiques soient... Enfin, ils sont importants, mais ils ne sont pas essentiels en eux-mêmes. Alors, je dirais deux choses. Suivant votre nature, vous prendrez l'un ou l'autre, et si vous êtes très bon, vous prendrez les deux. La graine qui permet de faire grandir cette dimension intérieure, c'est la lecture de l'Évangile, la connaissance de l'Évangile et l'amour de Dieu. Alors si vous êtes un grand mystique, je dirais la base, c'est l'amour de Dieu. De se sentir aimé par Dieu et d'être infiniment reconnaissant d'un amour qui nous est donné, d'une grâce qui nous est faite et d'une présence qui nous accompagne, quoi que nous fassions, d'une présence de tendresse, de douceur et de grâce. Celui qui ressent cela, eh bien, ça fait grandir en lui une joie et une liberté et une paix profonde. Donc ça, c'est bien. Si vous n'êtes pas aussi mystique que ça, je dirais que la graine de départ, eh bien, c'est l'Évangile, c'est-à-dire c'est une parole. Et on sème une parole, c'est ça la parabole du semeur. Ce qui est semé, dit l'Évangile, c'est la parole. Et donc il faut nourrir cette dimension intérieure par une parole, par un contenu, par un enseignement, par quelque chose qui peut permettre de grandir et de donner de belles choses ensuite. Alors c'est vrai que si vous voulez manger des bons abricots bien mûrs, la graine, c'est le noyau est en lui-même pas très bon à manger. Donc ça, je dis ça pour les enfants qui subissent l'école biblique et le catéchisme. Pendant le catéchisme, on leur donne à manger des noyaux, c'est peut-être pas terrible, mais j'espère bien qu'un jour ces noyaux plantés en eux vont produire des choses extraordinaires et qui leur feront découvrir qu'il y a de très belles choses dans ces paroles parfois austères que l'on partage. Ensuite, je continue, donc toujours je reprends mes paraboles, et qu'est-ce que j'y vois? Je vous ai dit tout à l'heure, je vois que Dieu attend que ça donne de bons fruits. C'est ça son jugement. Il dit, écoutez, croyez ce que vous voulez, faites ce que vous voulez, mais moi je juge l'arbre à ses fruits. Donc ce que vous croyez, la façon avec laquelle vous gérez votre vie, est-ce que ça produit des bons fruits ou est-ce que ça produit des choses désagréables? Voilà. Et donc c'est bon si ça produit des bons fruits, c'est-à-dire de l'amour, de la paix, du pardon, de la grâce, de la confiance, de la douceur. Et ça, pour les autres, parce qu'après tout, le but de notre vie, c'est de produire quelque chose de bon dans le monde. Donc si votre foi génère dans le monde plein de bonnes choses, de fraternité et de douceur, eh bien c'est formidable. Et si ça ne donne rien, eh bien Dieu dit, bah, écoutez, ça donne rien, ça m'agace, on coupe. Où on brûle. Bon, c'est assez compliqué parce que je comprends qu'il y ait cette exigence de dire l'important, c'est que finalement ça amène quelque chose pour les autres et pour soi. Et en même temps, c'est quand même un peu sévère, c'est ce jugement de Dieu. Et c'est pour ça que je vous ai lu tout à l'heure la parabole du figuier, mais dans sa version sympathique. Non pas celle où justement on coupe le figuier qui ne produit rien, mais le maître qui dit, écoute, c'est vrai, il donne rien, mais en même temps, laisse-lui le temps, je vais m'en occuper, je vais creuser autour, je vais mettre du fumier à son pied et ça ira. Et donc, j'aime cette patience de Dieu qui justement dit, il n'attend pas de nous qu'on soit toujours au top. Et il n'attend pas, pour juger notre vie, de se dire il faut forcément qu'on juge une vie par rapport à ce qu'elle apporte aux autres. On ne peut pas juger trop vite. Et qu'il faut de la patience. Alors cette patience, elle est vraie aussi en culture. Si vous plantez quelque chose, il faut attendre que ça pousse. Et donc il faut prendre du temps. Et même dans la culture, il y a des moments où ça produit du fruit et des moments où ça n'en donne pas. Et donc Dieu le sait, il y a des moments dans notre vie où on est prêt à donner aux autres de l'amour, du temps et de l'attention. Et il y a des moments où on en est simplement incapable. Bon, mais c'est pas grave, Dieu ne nous en veut pas pour autant, apparemment. Hein? Et même, là, dans la parabole, on voit le vigneron qui dit « Laisse-lui encore un an ». Vous me direz, c'est un délai court. Mais en même temps, je me dis, mais si ce figuier ne produit pas de fruits, entre le moment où il a été planté jusque-là, il n'en a jamais produit. Donc ça fait pas un an, ça fait 10 ans, 20 ans, 30 ans qu'il n'a rien produit. C'est-à-dire, avant qu'un arbre donne du fruit, il faut énormément de temps. Et autrement dit, il faut du temps. Et on ne peut pas avoir tout de suite, dans aucun domaine, et certainement pas dans notre vie spirituelle. Donc je vous ai dit, dans ces temps de croissance, il y a dans la foi des tas de moments qui sont des temps de croissance, qui sont des temps de croissance importants, mais qui ne produisent aucun fruit. C'est-à-dire, il y a des moments où, oui, on a notre foi chrétienne et on y tient, on prie quand même, on va à peu près au culte, on lit un peu la Bible, et on se dit, mais ça ne m'apporte rien. Ça n'apporte rien ni à moi ni aux autres. Eh bien, ça n'est pas inquiétant du tout, parce qu'il ne faut pas se décourager. La foi n'est pas toujours productive, mais si elle grandit en nous, peut-être qu'il y a un moment où nous pourrons cueillir les fruits de cette foi. Et donc, les choses grandissent sans qu'on voit comment ni ce à quoi elles mènent. Il ne faut pas avoir cette espèce de jugement un peu qui est la déformation de notre ère moderne, où on juge immédiatement les choses à leurs résultats. Je vois en particulier dans les études de mes enfants, c'est effrayant, cette façon depuis la maternelle jusqu'en haut de juger, et s'il n'est pas absolument au top, tac, il est dégagé, il y a très peu de moyens de revenir, c'est-à-dire qu'on n'a le droit à aucune faiblesse dans notre vie actuellement. Eh bien, dans la vie spirituelle, on a droit à la faiblesse, et on a le droit de ne pas être toujours au top, mais ça ne veut pas dire que il n'y a pas un moment ou l'autre où ça fonctionnera. Et souvent, quand on m'interroge même sur mes catéchumènes, là, on leur dit, est-ce qu'ils ont une foi qui produit des choses extraordinaires? Ou certains disent, mais alors ensuite, une fois qu'ils ont fait leur confirmation, est-ce qu'ils reviennent au culte? On pourrait faire un sondage, là, est-ce qu'il y en a? Il y en a peut-être quelques-uns quand même. Ah oui, il y en a, voilà, je vous remercie. Eh bien, je le souhaite, bien sûr, mais ce n'est pas forcément grave. Parce que l'image que j'en ai, vous savez, c'est ce qu'on appelle le blé d'hiver. Le blé d'hiver, pour que le blé pousse bien, on le plante à l'automne, c'est-à-dire en ce moment. Alors il pousse un peu rapidement, il fait de l'herbe, et ensuite il reste à l'état d'herbe pendant 3 mois, 4 mois, 6 mois. Il ne bouge plus. Mais tout est prêt, tout est poussé, bien enraciné, il y a la graine, il y a la petite plante, etc. Elle ne produit aucun fruit, mais elle est là. Et ensuite, quand vient le bon moment, il suffit d'un petit rayon de soleil, d'un peu de printemps, et clac, l'herbe pousse et ça donne un grain, un épi formidable. Mais si on n'a rien planté à l'automne, au printemps, vous n'aurez rien non plus. Et donc, il y a ces temps de latence, je dirais, dans la foi. Il faut veiller avec beaucoup de sollicitude sur ces herbes, ce bon grain en herbe, et en même temps ne pas se décourager sous prétexte que le blé est en herbe et qu'il est pas, qu'il grandit pas autant que ce que l'on voudrait. Alors donc, vous disais-je, ce qui donne la valeur, c'est le fruit. Je vais être ce coup-ci dans le mode exigence. J'ai été dans le mode gentil, je vais être dans le mode exigence. Je pense que Jésus a raison sur ce point quand même. Ce qui donne son sens à notre vie, ce qui donne sa valeur, c'est le fruit, c'est-à-dire ce que nous produisons, ce que nous donnons aux autres, et à la fois pour le monde, en général, pour nos frères et sœurs, pour nos proches, etc. Et que par conséquent, il faut bien se dire que c'est ça, le cœur de notre vie chrétienne, c'est de donner du fruit. Alors c'est vrai que de toute façon, dès que vous vivez, vous produisez des déchets, donc vous produisez des embêtements pour les autres. Ça c'est vrai, on ne peut pas l'empêcher entièrement, qu'il faille le réduire au maximum, je suis d'accord. Mais je ne voudrais pas dire que le sens de notre vie se réduire à limiter nos déchets. Zut, quoi, c'est quand même très négatif. Et l'écologie, de ce côté-là, nous culpabilise sans arrêt. Et comme si le seul sens de notre vie, ce serait d'essayer d'éviter de vivre, en disant « je vais déranger le moins possible ». Eh bien oui, déranger le moins possible, c'est une très bonne idée. Mais moi, je vous dis, par-delà les déchets que vous apportez, ou l'oxygène que vous consommez, ce qui est un scandale, mes amis, vous consommez de l'oxygène, quelle horreur, mais par-delà ça, est-ce que vous donnez quelque chose au monde? C'est ça. Est-ce que vous donnez quelque chose au monde? Et la qualité de notre vie, le sens de notre être, c'est de se dire, en quoi est-ce que je contribue à donner au monde quelque chose d'important? Soit au monde en général, soit plus particulièrement à l'un ou l'autre. Il n'y a pas longtemps, dans une soirée mondaine, les gens avec qui j'étais comparaient leur métier en disant « moi je suis utile parce que je fais ceci, moi je contribue à l'économie du monde, etc. » Il y en a un qui me regarde l'air méprisant et qui me dit « de toute façon, toi, pasteur, tu es un improductif, c'est-à-dire tu ne produis rien. » C'est vrai, je ne produis rien, je ne fais que consommer. C'est affreux, je consomme de l'argent, vous donnez de l'argent pour l'Église qui ne sert à rien dans ce monde, et donc c'est de la perte totale. Donc oui, je suis un improductif. Mais en même temps, je crois que le plus précieux dans notre vie, justement, ça n'est pas l'économique. Ce dont nous avons besoin d'une façon vitale, c'est d'amour, c'est de foi, c'est d'espérance. Et la chose la plus précieuse dans ce monde, et qui est peut-être qui devient aussi la plus rare, eh bien c'est l'altruisme, c'est la générosité, c'est la tendresse peut-être, c'est l'amitié. Et ça, je vais vous dire, là depuis le début, je méprise les jeunes en disant « bon, vous n'y connaissez rien, vous avez votre foi en herbe, vous ne produisez pas de grains, etc. » C'est pas vrai. Je crois que même tout petit, on peut donner. Et même quand on est tout petit, on peut apprendre très tôt à se tourner vers les autres et à donner aux autres. Et on peut apprendre, même tout petit, à comprendre que la valeur de sa vie, elle n'est pas par rapport à soi, par rapport à ce que l'on réalise ou ce que l'on fait, mais par rapport à ce que l'on sait donner aux autres. Alors, il n'y a pas de diplôme pour ça. Et c'est pour ça que c'est important qu'on puisse le rappeler. Et l'Évangile nous rappelle que la seule chose fondamentale de notre existence, c'est justement les fruits que nous donnons aux autres, grands ou petits, et on peut toujours en faire. Alors c'est vrai que, de ce côté-là, je défends même la dureté de l'Évangile, hein, le figuier desséché. Quand Jésus veut trouver du fruit sur le figuier qu'il n'en trouve pas, il dit, ben tiens, crève. C'est pas que Jésus tue le figuier, mais c'est en même temps une réalité. Si nous sommes incapables de donner aux autres, on mourra desséché. Ça, c'est vrai. J'y peux rien, je pense que c'est vrai. C'est fondamentalement vrai. Et donc, ce jugement est dur, mais en même temps, vous disais-je, il y a dans l'Évangile énormément de grâce et quand même de bonnes nouvelles. Donc, je vais finir, je vais arrêter mon chapitre menace et finir dans les bonnes nouvelles. D'abord, ça, je le vois dans la parabole du semeur. Vous la connaissez. Vous savez, le semeur qui sème partout, il sème dans la bonne terre et aussi sur les chemins. Alors moi, enfant, je me dis, c'est idiot, pourquoi il sème dans les chemins? Il ne peut pas pousser, c'est absurde. Eh bien, en fait, première bonne nouvelle, Dieu n'a pas de jugement a priori sur nous. C'est-à-dire qu'il ne dit pas, lui, de toute façon, il n'y arrivera pas, ça n'est même pas la peine. Dieu donne la même chance à tous, il ne retient pas les dons, ses dons, et il donne même à ceux dont on pourrait penser qu'il ne donnerait rien. Et je pense que donc il y a toujours une chance pour chacun de nous et personne n'est trop petit ou trop mauvais pour pouvoir donner du fruit. Ensuite, la parabole du bon grain et de l'ivraie me donne une autre bonne nouvelle. Vous savez, il y a les serviteurs qui disent « bon ben nous on va arracher l'ivraie, le brûler et garder le bon grain » et Dieu dit « oh là là, non, 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 faites pas ça ». Justement, Dieu a choisi de ne pas envoyer en enfer ceux qui ne produisent pas de bon grain. Il dit, il ne va pas faire comme ça, il laisse l'ivraie pousser. C'est extrêmement sympathique, enfin, c'est embêtant parce qu'il y a des méchants sur terre, mais en même temps ça veut dire que Dieu a une sorte de tolérance à l'égard des méchants. Et moi ça me plaît parce que je ne suis pas sûr d'être parmi les bons, je suis souvent aussi parmi les méchants. Donc heureusement que quand je fais le mal, Dieu ne vient pas me foudroyer, me jeter au feu, me couper pour me jeter dans l'enfer. Et en fait, c'est qu'il y a en nous un mélange de bon et de mal, de bon et de méchant, et que Dieu choisit de tout garder. Et simplement, il dit, c'est vrai, ensuite, à la mort, eh bien, je ne garderai que le bon. Et le moins bon, eh bien, ce sera jeté à la poubelle, pas de problème, mais Dieu choisit de ne garder que le meilleur de nous, et ça, c'est une bonne nouvelle. Parce que je crois effectivement que celui qui ne vit que pour lui, eh bien, il disparaît quand il meurt. Et que ce qui nous survit après notre mort, c'est tout ce qui est justement sorti de nous pour aller vers les autres. Et c'est ça qui donne une dimension éternelle à notre vie. Ensuite, le figuier avec son fumier, je vous ai dit, c'est une bonne nouvelle parce que Dieu est patient, qu'il est prêt à attendre, mais ce n'est pas que ça. Il y a aussi une aide active de Dieu pour nous aider à produire du bon fruit. Alors on dit qu'il creuse autour, ça c'est toujours bien de creuser. On creuse les questions, on approfondit, on cherche, parfait. Et on dit qu'il met du fumier aux pieds. Alors, qu'est-ce que c'est que ce fumier ? On peut dire c'est l'amour, la tendresse, la sollicitude que Dieu nous donne. En même temps, le fumier, c'est quand même pas extraordinaire. Et donc Dieu nous fait pousser en mettant du fumier à nos pieds. Ça, je ne comprends pas très bien. Peut-être que, effectivement, quand on voit dans le monde la misère, la difficulté, les problèmes, ça peut nous inciter à donner du fruit. On se dit, mais il y a des choses à faire dans ce monde. Hein. C'est-à-dire que si tout était rose, on pourrait juste consommer, mais il met à notre pied la misère du monde, peut-être, pour que nous sachions réagir ou intervenir. Ou alors, mais ça, je ne voulais pas le dire, parce que c'est la théologie d'autrefois, de ma grand-mère. Je dirais, le fumier, ce serait peut-être les petites épreuves que Dieu nous envoie et que ce mal, ces déchets finalement qui sont dans notre vie nous attendrissent, nous font comprendre la vraie valeur de la vie. Je ne sais pas. Mais en tout cas, ce qui est vrai, c'est que Dieu nous aide et nous accompagne. Et donc finalement, vous voyez, je crois effectivement que notre vie, elle est toute comme un écosystème extraordinaire et qui doit être géré avec ce mélange d'exigence et de tendresse et de bonté. Mais qu'en tout cas, je pense que chacun de nous avons la possibilité de donner dans ce monde des fruits excellents d'amour, de tendresse, de pitié, de générosité, d'altruisme, de douceur et de paix. Et que si Dieu nous le demande, nous avons nous la possibilité de le faire, mais que Dieu est surtout celui qui nous donne en premier. Et que nous pouvons donner parce que nous avons reçu. Et c'est ça la théologie de la grâce. Nous recevons infiniment, et pour pouvoir donner, il faut d'abord se concentrer sur ce que l'on a reçu, et savoir que l'on a reçu de Dieu des immenses grâces, que sont son amour, son pardon, sa paix, tout ça, mais aussi toutes les grâces et les chances de votre vie, et que tout ce que vous avez reçu, ce sont des graines qui sont plantées en vous pour que vous puissiez en redonner à d'autres. Et Dieu simplement nous invite à contribuer avec lui pour développer un monde qui soit un monde comme il le rêve. Amen.